Bonjour les bien-aimés. On se souvient qu'on a trois missionnaires en voyage, hein, dans le groupe de jeunes, qui sont au Bénin depuis une semaine. Gardons-les dans nos prières. C'est magnifique de savoir qu'on a des témoins qui sont envoyés, qui sont là-bas, qui reviennent avec des nouvelles. Alors évidemment, dimanche passé, il y avait peu de chaises libres, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Aujourd'hui, un peu plus, mais je crois que c'est normal, évidemment. Mais je crois que ce grand nombre qu'on était, c'était une des fois où j'ai vu Lazare parmi les fois les plus pleines. C'est, à mon avis, comme un signe anticipateur qui doit nous parler. Le Seigneur veut remplir. Pas juste parce qu'on dise, oh, Lazare, c'est bien, il y a du monde. Non, parce qu'il veut remplir sa maison de ceux qui vont être sauvés. Je me disais, en regardant le sigle, ou le, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est The Chosen, là, qu'est-ce qu'il y a de spécial là dans ces poissons qui tournent en cercle? Ils n'ont pas quoi? Oui, exactement. Ceux qui sont en vert, mais peu importe la couleur, c'est juste pour les différencier. Ceux qui sont en vert tournent dans un sens. Et ceux qui sont en, je ne sais pas quoi, un petit peu bordeaux, je ne sais pas quoi, tournent dans l'autre sens. Je crois que c'est une image très parlante de ceux qui ont été choisis par le Seigneur et qui se sont laissés choisir par le Seigneur. Ce n'est pas le tout d'être choisi par le Seigneur, il faut encore se laisser choisir. Comme disait Jésus, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Eh bien, ceux qui répondent, ce sont ceux qui sont élus. Ce n'est pas difficile. Hein. Ce n'est pas un privilège spécial d'être élu. Oui, c'en est un, mais finalement, c'est quand on répond qu'on est élu. Alors, je me disais, ben voilà, ceux qui sont élus, je pense que c'est ceux qui sont en vert, les poissons qui sont en vert, là, qui sont un peu moins nombreux que les autres, ils nagent à contre-courant. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à nager à contre-courant. Non pas pour embêter le monde, non pas pour faire les malins en disant on n'est pas comme les autres, ça n'a aucun intérêt. Mais parce que le courant que Dieu nous appelle à suivre, c'est celui où les poissons nagent à contre-courant. Parce que ceux qui nagent en se laissant porter par le courant, ils commencent dans un torrent de montagne et puis ils finissent dans la mer sous forme de poissons morts. Voilà. Tandis que ceux qui nagent à contre-courant, ils ont la vie du Seigneur en eux. Pour changer, parce que le vrai courant, c'est celui que Dieu nous a demandé de suivre. Alors, pendant que j'y pense, notre sœur Sarah, il y a un mot qui revenait souvent, potomana, un truc comme ça. Ça veut dire le Seigneur ou bien? Oui, le Seigneur. Oui, parce qu'on entendait ce mot qui revenait. Je me suis dit, ça doit être le Seigneur. Amen, alléluia, potomana, c'est ça? Tu peux redire le mot? Tu peux redire ce mot? Ouais, enfin... En tout cas, ça montre que quand on prie en langue, c'est un peu comme... Là, elle ne priait pas en langue, elle priait simplement dans sa langue maternelle. Mais quand on prie en langue, même si on ne comprend pas, l'Esprit de Dieu agit. C'est merveilleux. Voilà. Nous sommes actuellement dans un temps un petit peu de transition pour l'Église Lazare. Parce que, bon, il y a un couple pastoral qui s'en va... Ils ne sont pas encore tout à fait partis, mais presque. Pas très loin, tant mieux. Mais bon. Et puis, il y a quelqu'un qui est recherché, plus ou moins, comme un remplaçant pour accompagner Christian Monod, qui, lui, est bien présent, mais en vacances. Voilà, on est dans un temps peut-être un petit peu où on pourrait se dire, mais on manque de munitions. Il n'y a pas beaucoup d'anciens, il y en a trois, sauf erreur, hein, et puis quelques-uns qui gravitent autour dans un peu peut-être moins en moins qui n'ont pas le titre d'ancien, mais qui sont quand même là. Alors, gloire à Dieu. Moi, je dirais, vous savez, on n'est pas pris au dépourvu. Quand le Seigneur, parfois, éclaircit nos rangs ou nous prive de quelqu'un qu'on se disait, ben là, il était là, c'est quand même bien, maintenant, il n'est plus. Je ne dirais pas que c'est sans importance, mais l'important, c'est que le Seigneur ne nous laisse pas et que même dans des conditions restreintes, il est capable de faire avec nous l'impossible et de faire que le nombre qu'on était dimanche passé se renouvelle et même dépasse et qu'il faille mettre dans les couloirs encore dehors. Moi, je crois que ce temps va arriver si nous faisons attention. Et hier, j'avais préparé un autre sujet qui aurait été trop long et qui aurait été peut-être un peu compliqué. Donc, je l'ai laissé tomber, puis je cherchais, j'étais un peu dans le brouillard, je ne vous cache pas. Je me disais, mais c'est quoi ta parole que tu veux donner à l'Assemblée demain matin? Et puis finalement, c'est quelque chose qui m'avait déjà effleuré les jours d'avant, mais j'avais laissé un peu de côté, ces deux pensées que j'ai à cœur de partager avec vous maintenant. Et qui fait que si on les applique, c'est pas très original, vous allez voir, mais c'est très, très important, qui fait que si on les applique, nous pouvons devenir une église, non seulement une église du réveil, ce que nous sommes déjà sur le papier, mais une église qui vit le réveil, une église de réveil, qui promeut, qui répand partout le réveil dont nous avons tous besoin. Moi, j'y crois, même si ça se fait attendre. Moi, j'ai vécu le réveil charismatique dans les années 70. On a été très marqué à l'époque. Après, il y a eu Toronto qui est venu dans les années 90. Bon, de temps en temps, on est visité par des vagues comme ça. Mais il faut en même temps que ça ne soit pas juste un privilège, mais que nous participions volontairement Alors justement, je vais dire en quoi. Je base la première pensée sur le psaume 73. Alors on peut le montrer au bimère, en entier peut-être, là. Enfin, surtout les 15 premiers versets. On voit que c'est un psaume qui a été composé par Asaph. Asaph, c'était un des chantres prophétiques qui, à l'époque de David, animait les cultes. C'était une époque assez privilégiée, là, avec David. Puis ça a continué encore après, pendant un certain nombre d'années, et même des dizaines d'années. Mais là, ce Asaph, qui a composé plusieurs psaumes, écrit, je crois que c'est le premier du psautier qui apparaît de lui. Et il est dans une période de sa vie, il déprime. Il déprime. Ça peut arriver que d'excellents chrétiens, ou même des gens qui ont des fonctions, et qui sont aux yeux de beaucoup intouchables, invulnérables, soit par terre. Moi, hier soir, j'étais presque un peu comme ça. J'ai quand même regardé le match. Je me suis dit, ça va me changer un petit peu. Bon, évidemment, je n'étais pas plus content que vous que les Suisses aient finalement perdu. Mais c'est tellement peu important. Ça n'a aucune importance, au fond. Bon. Ils ont bien joué, alléluia. Ils ont perdu, alléluia. Tant mieux pour les Anglais. Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà. Ça, je ne dirais pas que ça m'a remis les idées en place. Non, c'est le Seigneur qui l'aimait. Mais enfin, c'était une bonne... Oui. J'étais pressé, j'étais pas encore très au clair sur le message, mais j'y croyais. Et le Seigneur a exaucé, c'est merveilleux. Alors, la première pensée, je la résume tout de suite, elle consiste à vivre et à, oui, le plus continuellement possible dans ce qu'on appelle c'est devenu banal, la présence de Dieu. Consiste à vivre dans, pas seulement la présence de Dieu, mais je dirais même l'intimité de notre Père. Ce n'est pas évident. On est tellement vite distrait. Alors, si on lit les versets, ouais, surtout 3 et 4, je dirais, on peut quand même lire les premiers. Oui, c'est 4, même 4 à 6. Non, c'est bel et bien, c'est juste. Les versets. Donc, lisons quand même le début. Ouais. Ô Dieu est bon pour Israël. Ça, il l'affirme. Il a quand même une foi qui est drôlement ancrée. Il est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi ? Parce que je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Voilà. Ce qui le tourmente, ce qui l'attriste, ce qui le trouble, ça n'est pas des catastrophes extérieures comme on pourrait en avoir dans ce temps où la guerre sévit en Ukraine, qui est en Europe, entre la Russie et l'Ukraine. Ça pourrait... Il y en a qui savent pourquoi ils sont malheureux et tristes. Ou bien la guerre qui oppose Israël au mouvement terroriste du Hamas. On pourrait. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus la famine, un compte en banque qui a baissé soudainement, ou une grave maladie. C'est tout simplement, et ça peut être notre cas ici aussi, c'est que Asaph regarde. Pendant un moment, les autres. D'habitude, il regardait le Seigneur, mais là, il regarde les autres. Ceux qui sont pleins de... Ils ont l'air bien sur tous les plans, ils sont pas malades, ils ont de l'argent, ils ont du succès, ils sont connus, c'est des vedettes... Et il semble qu'au fond, rien leur arrive de mal. Et il se dit, mais quand même, si c'est vrai, alors à quoi ça sert d'avoir lutté toute sa vie, comme Asaph l'a fait, avec d'autres chantres prophétiques, pour faire vivre, pour louer le Seigneur. Et on peut être ainsi, je ne serais pas étonné qu'il y en ait ici ce matin qui sont un peu dans cet état d'esprit. Si on lit la suite, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Il y a une traduction qui dit « ils sont replets ». Voyez, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Ils plastronnent. L'orgueil est un plastron pour eux. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Alors ça, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est... Non, moi, je ne suis pas d'accord, ça. La justice de Dieu, ça doit être autre chose que ça. Ce n'est pas possible. Comment ça se fait? En fait, c'est quoi son problème? C'est qu'il se met à regarder les non-croyants en particulier et il est jaloux. Il les jalouse. Ils disent, ils ne se donnent pas de peine, ils ont pas la crainte de Dieu, ils ne s'occupent pas des malheureux qu'il faudrait pouvoir secourir et tout ça. Tout. Ils s'en foutent de ça. Mais par contre, ils ont la belle bagnole, ils ont les intérêts bancaires qui sont en augmentation, ils ont plein de choses qui les met un peu au haut du panier. Les autres les regardent, les foules les admirent en disant « Ah, ils lisent les journaux, il y a leurs photos en grand, etc. » Ça, c'est un piège. On va lire encore la suite. Je ne sais pas si c'est le moment. Ouais. Oui, il y a même une expression étonnante là, au verset, je n'arrive pas bien à lire. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, il faut le faire, hein, et leur langue se promène sur la terre, il faut le faire. Mais c'est bien, moi j'aime bien des expressions comme ça, je trouve ça super. Hein. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, oh là là, ils parlent pour tout le monde doit les écouter. De eux viennent les modes qui ont du succès. Et puis ils traînent leur langue sur la terre, ils balayent la terre avec leur langage. Donc, cela éveille une convoitise. Il peut arriver que même nous, chrétiens, à certains moments, c'est peut-être là un peu exagéré, hein, mais il peut arriver à certains moments que nous soyons jaloux des non-croyants qui ont l'air de mieux s'en sortir que les croyants, d'avoir moins de malheurs, moins de maladies, moins de toutes sortes de troubles. À qui est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Ce genre de... Oui, vous n'osez pas lever la main. Ah oui, il y en a une qui lève la main. Elle nous fait un dessin. En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est quand même arrivé, oui. On peut se dire, mais c'est quoi qui se passe? C'est le monde à l'envers. Alors, on va prendre encore les versets. Où est-ce qu'on en est maintenant? Oui, donc, il réfléchit, il dit au verset 15, on va lire le verset 15. Ah oui. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ça servait finalement à quoi? Les autres, ils sont aussi heureux que moi. Vous voyez ce qui cloche? C'est que ce n'est pas vrai. Alors, encore après, oui. Si je disais, je veux parler comme ces gens, ah non, je trahirais la race de tes enfants. Je ne serais plus un vrai israélite. Je ne serais plus un vrai chrétien. Je ne serais plus un vrai fidèle de Dieu. Ça, je ne peux pas quand même. Parce que quand même, mon passé, toutes les bénédictions, le Seigneur m'a secouru. Je ne peux pas parler comme ça. Mais n'empêche, ça m'énerve que ça soit comme ça. Ce n'est pas juste. Encore peut-être plus loin, verset... Oui, alors, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, parce qu'il n'est pas bête, Azaf, il réfléchit. Il ne fait pas que regarder des matchs à la télé, il réfléchit. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Oh, c'était pénible. C'était pénible, j'ai cherché. Oh là là, d'où vient... qu'il en soit ainsi, et que des fois les justes ont une vie plus pénible que les autres, que les injustes. Et alors, là, il y a le verset 16. J'ai trouvé ça pénible, j'ai trouvé ça impossible, jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Écoutez bien ça, moi j'aime ça. Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'aie pris garde au sort final des méchants. Moi j'aime énormément ce verset. Les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi? Ils sont où ces sanctuaires de Dieu? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Ben, lui, à un moment donné, ça y est, il se trouve dans les sanctuaires de Dieu. Il a peut-être... il ne sait pas comment ça lui est venu, mais ça lui est venu. Je commence à voir clair. J'étais un idiot. Dans la suite, il dit, j'étais devant Dieu comme les bêtes. J'y comprenais rien. Quand j'étais... jaloux, quand j'étais énervé. Alors ces sanctuaires de Dieu, dans lesquels il nous faut pénétrer quand ça ne va pas bien, ils ne sont pas à des milliards d'années-lumière, bien que, moi quand j'y pense, je pense à quelque chose d'immense, avec plusieurs salles, avec des instruments de musique, avec des vidéos. Non, mais il n'y a même pas besoin de vidéos, avec la réalité, c'est tout. Je vois quelque chose d'immense, mais ce n'est pas des milliards d'années-lumière. Vous savez où sont les sanctuaires de Dieu? Où est-ce qu'on va les trouver? Il y en a qui font des gestes justes. Et les autres, oui, c'est ça. Les sanctuaires de Dieu, c'est là qu'il faut les chercher. Dans notre cœur, plutôt que dans notre cerveau. J'ai rien contre le cerveau. C'est utile pour les choses du monde, même très utile pour les choses du monde. Ni non plus dans nos émotions. J'ai rien contre les émotions, c'est nécessaire. Mais c'est pour les choses du monde. Le cœur, c'est encore autre chose. C'est à peu près synonyme de l'esprit, notre esprit, hein, j'entends, notre esprit. Nous sommes un corps, ça on le sait. On sait ce que c'est. Nous sommes un esprit. Le corps, c'est ce qui ouvre sur la réalité matérielle, sur la réalité visible des choses du monde. Ça, c'est le corps. On connaît. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est la porte qui s'ouvre sur l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit. Et qui nous permet d'accéder et d'entrer en relation avec Dieu, mais qui nous permet aussi, attention, d'accéder aux choses du diable. Hein. L'esprit, il est ouvert. Il peut être ouvert à Dieu, mais il peut aussi être ouvert aux choses occultes et diaboliques et démoniaques. Mais si nous avons choisi notre camp et que nous marchons avec Dieu, il sera habité par l'Esprit de Dieu. Et puis entre deux, entre le corps et l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'âme. Alors l'âme, c'est à la fois notre intelligence, celle du cerveau, c'est aussi notre volonté qui veut, qui entreprend, et c'est aussi nos émotions, nos sentiments qui sont chahutés souvent, mais qui peuvent être aussi merveilleusement paisibles. Et le cœur, on dira. Ben le cœur, c'est à peu près à la charnière entre l'esprit et l'âme. C'est ce qu'il y a de plus profond dans notre âme. C'est ce qu'il y a de plus profond qui fait la jonction avec l'esprit. C'est notre moi profond. Eh bien, dans notre cœur, il faut aller chercher les sanctuaires de Dieu, là. Non pas parce que notre cœur est de naissance le domaine où Dieu réside, non. Mais je parle du cœur régénéré, du cœur nouveau que nous avons reçu lorsque nous nous sommes convertis, tournés vers le Seigneur. Nous avons reçu un cœur nouveau. Ce n'est pas nous qui l'avons construit. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en place et qui l'avons purifié. Bien sûr, il faut purifier son cœur une fois. Parce que même le cœur nouveau peut se ressalir de nouveau, donc il faut faire attention. Mais dans ce cœur nouveau que nous avons reçu, là se trouvent les sanctuaires de Dieu. Là, on est chez le Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Tout d'un coup, Asaph, il pénètre dans cette zone de lui-même, habitée par le Seigneur. Et tout d'un coup, la lumière se fait. Il commence à voir clair. Il dit, mais ah, et qu'est-ce qu'il réalise? On pourrait prendre le suivant. Oui. Oui, il réalise ceci. Toi, Seigneur, tu les places sur des voies glissantes. Ces gens, ces je m'en foutistes, arrogants, méchants, souvent, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Finalement, est-ce que ça ne valait pas la peine que je fasse un fromage avec ces gens-là et que je les envie, parce que c'est déjà fini. Ça a duré quelque temps, mais ils sont morts ou ils ont perdu tous leurs avantages, etc. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Prenons le suivant. Oui, il réalise ceci. Lorsque mon cœur s'aigrissait, que j'étais fâché, que j'en voulais à tout le monde, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard, Seigneur, comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire. C'est extraordinaire ce qui est dit là. Je suis toujours avec toi. Ça rappelle quoi, cette phrase-là ? Je suis toujours avec toi. Pardon ? Le ? Oui, c'est vrai, oui. Mais aussi dans une parabole bien connue, la parabole du fils perdu et retrouvé, et de son frère, jaloux de voir qu'on fait la fête à son frère cadet, qui a fait n'importe quoi, alors qu'à lui, on n'a jamais fait ça. La même chose, mais le père, le bon père, qui aime son fils cadet, qui revient à la maison, et qui aime son fils aîné, qui est toujours resté là, sagement, qui a fait le boulot, mais qui est fâché, parce que quand son frère arrive, il trouve que ce n'est pas juste. Il dit, « Et moi, alors, tu ne m'as pas fait la fête avec un chevreau et pour me réjouir avec mes copains ?» Mais son père, qu'est-ce qu'il lui répond ?« Mais mon enfant, mais tu es toujours avec moi. » Et là, il dit, je suis toujours avec toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est à toi. Donc, si tu voulais faire la fête avec tes copains, mais tu pouvais simplement me demander de faire boucherie avec le veau gras. Je l'aurais fait. Mais pour les besoins de la parabole, hein, mais tu ne me l'as jamais demandé. Alors on dira, ouais, mais alors il faut toujours demander. Ben oui, il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas se gêner. Et là, il comprend que c'est idiot de rester dans l'amertume. Il y a des gens, ils se rendent malheureux toute leur vie, parce que bien qu'ils soient chrétiens parfois, ils gardent toujours une rancune contre la société. Ça arrive assez souvent. Ils gardent une dent contre ceux dont ils estiment qu'ils ont abusé de leurs avantages. Et ils se rendent malheureux. Il y a des gens, ils sont sur un trésor qui est sous leurs pieds, à 20 centimètres sous terre, mais ils n'en font rien. Alors, c'est là la grande leçon que Asaph tire, c'est qu'il faut arrêter d'être comme ça, il faut arrêter de convoiter toujours. Ah, si j'avais si. Ah, si j'étais à la place de celui-là. Ça ne sert à rien. C'est complètement inutile. Retournez, remettez vos yeux dans les sanctuaires de Dieu et regardez non pas à ce que vous aimeriez avoir et à vos jalousies, mais regardez au Seigneur. Regardez à lui de nouveau. Vous l'avez oublié. Vous avez oublié votre premier amour. Écoutez-le, reprenez contact dans l'intimité de votre cher Père Céleste. Faites place au Saint-Esprit, donnez-lui la place d'honneur qu'il mérite, c'est-à-dire d'être toujours avec lui. Je crois que le Seigneur est avec Jésus, bien sûr. Celui qui a le Saint-Esprit, il a Jésus, et celui qui a Jésus en profondeur, il a le Saint-Esprit. Donc, il nous encourage en disant, mais gardez les yeux sur lui. Alors vous direz, oh, mais c'est quand même pas facile. On ne peut pas toujours être là dans la recherche de la présence de Dieu. Eh bien oui, pourquoi pas finalement. C'est vrai qu'on est préoccupé, on est distrait, ça c'est normal, on ne peut pas toujours être en prière, et on est d'accord. Mais on peut quand même en arriver à un style de vie où pour tout et pour n'importe quoi, on se tourne vers le Seigneur. Même des petits détails où on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai oublié ceci, j'ai pas fait ça. Le Seigneur nous dit, t'inquiète pas, je suis là. Pas de stress, pas de stress. Suis-moi, c'est tout, tu vas voir. Ça va marcher. Alors, pendant quelque temps, ça ne marche pas si bien que ça peut être. On a quand même des moments un petit peu de déprime, ça arrive. Mais plus nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, plus nos oreilles sont ouvertes pour entendre sa parole. Au lieu de s'enlacer, à un moment donné, le Seigneur dit à Israël, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es lassé de moi. » Alors on dira, « Oui, mais ça c'est grave, ça peut arriver. » Ça peut arriver, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Il nous aime, il patiente, il nous parle. Oui, Seigneur, j'ai eu de la peine à comprendre. Redis-le-moi encore une fois. Et il le redit. Oui, Seigneur, tu m'ouvres les yeux. Finalement, j'ai un immense privilège d'être avec toi. C'est extraordinaire. Pourquoi je me plains ? Mais c'est extraordinaire, je te connais et je vais passer l'éternité avec toi et mes frères et sœurs parce que c'est la grande espérance, c'est la gloire éternelle d'Israël. Et ça s'illumine. Oh ! Extraordinaire. Alors, arrêtons de porter des lunettes déformantes de notre jalousie, de notre convoitise. Arrêtons avec ça et retournons vers le Seigneur de tout notre cœur, avec passion. Et lui viendra notre secours. Il est dit dans la parole de Dieu, la Bible de Jacques, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu. Oui, ça vaut la peine, faites l'effort. Mais ça ne dépend pas d'abord de vous, ça dépend de lui. Et lui, il s'approchera de vous. Et vous allez pouvoir vivre des choses que vous n'avez jamais vécu, faire des entreprises qui vont réussir et que vous n'avez peut-être jamais vécu jusqu'à maintenant. On est dans un temps comme ça. Le Seigneur est en train de réveiller le peuple juif, il est en train de réveiller Israël, il leur a redonné depuis 78 ans, presque un siècle, il leur a redonné une terre, leur terre. Bon, il y a des problèmes avec les Palestiniens, c'est une autre histoire, je ne m'étends pas là-dessus, mais il leur a redonné leur héritage. Et il est en train de leur redonner l'ouverture d'esprit qui leur permet d'admettre que Jésus, c'était bel et bien le Messie d'Israël, que c'était bel et bien le Messie prévu pour eux. Ce n'est pas une manière de dire qu'ils se sont fait avoir et que nous, les chrétiens d'origine païenne, on était plus intelligents, on a su voir. Non. Ce n'est pas toi qui portes l'olivier, c'est la racine de l'olivier qui te porte. Ne te prends pas pour la racine de l'olivier. La racine de l'olivier, c'est les Juifs. Et ça sera toujours les Juifs. Donc ne te prends pas pour la racine. Tu es porté sur cette racine. Mais le Seigneur, il donne l'ouverture, la possibilité de vivre sur cette racine dont la quintessence, c'est Jésus de Nazareth lui-même. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette partie-là et prendre plus brièvement la deuxième pensée qui consiste en ceci, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et là, je veux être concret. Ça veut dire qu'à côté du privilège d'être dans les sanctuaires de Dieu, nous sommes des gens de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, pécheurs, oui, qui ont encore besoin de reconnaître leurs péchés, oui, ça c'est vrai, mais quand même aimés, quand même gâtionnés par le Seigneur. Il y a une autre chose, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors attention, pas simplement comme on le fait d'habitude, les petits copains entre eux, on va voir ceux qu'on connaît déjà, à la sortie du culte par exemple. Hein. Non. Oui, bien sûr, on se réjouit avec nos amis les plus proches, bien entendu, c'est normal. C'est normal. Mais pas seulement. L'Église n'est pas un club de religieux qui cherche juste à mener une vie plus confortable et plus cool, parce qu'on est entre copains, parce qu'on est entre des gens, on se connaît. L'Église est un terrain d'entraînement pour devenir des secouristes, des gens remplis de zèle pour aller vers ceux qu'ils ne connaissent pas ou pas assez. Ils sont venus peut-être juste deux fois, puis on n'a jamais su qui c'était. Il y a même des gens, moi ça m'est même arrivé, qui me disent, je leur dis, mais il n'y a pas longtemps que vous êtes ici à Lazare. Ils me disent, oui, il y a 5 ans. Non, alors là, je suis mal pris. Et, parce que je ne les avais pas vus, ou je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas juste. Moi, je m'approche volontiers des gens que je ne connais pas. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais c'est encore pas assez. Il y a des gens, ils ne vont que vers ceux qui connaissent bien. Et moi, je connais des gens qui, à la sortie du culte ou dans d'autres réunions, mais des gens aussi dans le monde, n'ont jamais été abordés par un chrétien de l'Assemblée. Jamais. À qui on n'a jamais offert, qu'est-ce que je peux... Est-ce que... Vous êtes un étranger, vous n'avez pas de voiture, est-ce que je peux vous conduire? Ou bien, est-ce que je peux prier pour vous? Il me semble que vous êtes un peu triste, là, je peux. Vous êtes d'accord que je prie pour vous? Ou bien, pas seulement quand c'est un appel officiel, mais même autrement, comme ça. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un café chez moi? On pourrait faire connaissance. Vous pouvez me donner vos coordonnées? Comment vous vous appelez au fait? Je ne sais pas. Bon, moi j'oublie vite les noms, hein, mais il faut demander plusieurs fois. Je crois qu'il y a un manque. Il y a vraiment un manque. Et je vous encourage, je nous encourage, à faire la connaissance de ceux qu'on ne connaît pas. Spécialement des étrangers. Là, il y a aussi, il n'y a pas seulement Sarah, il y a aussi Leïla, qui est de l'Iran. Non, qui est de l'Afghanistan. Oui, je crois que je me trompe. Mais au moins, je le sais. Parce que j'ai été, je me suis dit, qui c'est cette... Et puis, qui c'est cette Sarah qui prie? D'abord, la première fois que j'ai entendu, je lui ai dit, ah, quelqu'un qui parle en langue. Puis après, j'ai compris que c'était du farsi ou du kurde, je ne sais pas. Voilà. C'est du farsi ou du kurde? Hein? Du farsi? Oui, c'est du farsi. Oui. Oui, c'est proche de la langue d'Afghanistan aussi. Mais enfin, bref, il y a des gens qui sont tout seuls, ils ont besoin d'être aimés. Et je crois que si nous voulons être une église qui vit le réveil, il nous faut d'une part entrer dans les sanctuaires de Dieu le plus souvent possible. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait autrefois Smith Wigglesworth, un pionnier de la guérison. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, « Oui, mais vous avez une telle onction sur vous, il y a des miracles et tout. Vous passez combien d'heures dans la prière chaque jour ?» Il leur a répondu, « Moi, un quart d'heure. » « Comment ?» Vous avez un quart d'heure de prière seulement? Il dit oui, mais je les renouvelle toutes les heures, le quart d'heure. Alors il priait peut-être pas longtemps, mais toutes les heures, il reprenait un quart d'heure de la communion avec son... Ça, c'est une manière de faire. Hein, on ne cherche pas des champions qui font les vedettes de la prière. On cherche des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vivent avec le Seigneur. Mais alors l'autre facette, c'est celle-là. Les autres qu'on ne connaît pas, qui sont seuls, qui repartent, personne ne les a salués, on n'a pas fait attention. Alors, je ne dis pas que c'est général à Lazare, ça, mais il y a encore un peu trop. Et je crois que la plupart des églises, chez nous, c'est un peu trop. On cherche notre petit confort, au lieu de chercher vraiment à amener des gens comme ça au salut. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je crois que ça suffit. Mais si nous veillons pendant ces vacances, pas seulement la vacance pastorale, parce qu'il y a de toute façon toujours Christian Mono, il est toujours là. Et puis, il n'y a pas que les pasteurs. Il y a nous. C'est nous qui sommes les acteurs de Dieu. Il n'y a pas que les anciens. C'est nous tous. Nous sommes tous des acteurs de Dieu. Hein? Alors, pendant ces vacances pastorales, si j'ose dire, mais surtout les vacances d'été, si nous jouions ce jeu en disant « Je vais m'efforcer d'avoir tous les jours, peut-être toutes les heures, un quart d'heure, ou toutes les heures, ne serait-ce que 5 minutes, toutes les heures, sauf quand je dors, peut-être c'est plus difficile. Mais sinon, où je suis avec mon Seigneur, où je suis dans les sanctuaires de Dieu, je regarde à lui, à mon privilège, je loue le Seigneur, je l'aime. Et loin la jalousie, un coup de pied quelque part, toutes ces choses qui voudraient nous absorber. Et en même temps, j'aime mes frères et sœurs. J'aime aussi les non-croyants qui peuvent m'énerver des fois peut-être, qui ont des habitudes qui sont plus celles que j'aime. Mais peu importe, je l'aime lui ou elle. Vous voyez ? Je crois que nous allons devenir une église de réveil qui va vivre une croissance merveilleuse, comme on voit dans les Actes des Apôtres. Si vous regardez la naissance en 2 ans de l'église d'Éphèse, en 2 ans, toute la région d'Éphèse, ça faisait plus de 200 000 personnes, avaient entendu l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient convertis, attention, mais ils avaient entendu l'Évangile. Au moins, ils avaient entendu l'Évangile et beaucoup se sont convertis en 2 ans. Bon, ce n'est pas l'apôtre Paul, lui tout seul, qui a fait ça. C'est qu'il a formé des disciples avec son équipe. Et ses disciples ont fait des nouveaux croyants. Ils les ont amenés à la conversion, qui eux-mêmes sont devenus des formateurs de disciples. C'est ce qu'on appelle la croissance exponentielle. Non pas par addition, mais par multiplication. J'y crois, ça. Et vous ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord d'utiliser ces vacances d'été ? Pour un entraînement? Oui? Eh, vous êtes un petit peu encore. Vous êtes en train de vous dire, ouais, on va voir. On va voir Jean-Pierre s'il le fait. Je suis un peu vieux pour faire autant de choses que je faisais autrefois. Mais c'est pas la quantité de choses qui importe. C'est la qualité. C'est la. Le contact avec le Seigneur qui se répand. Alors voilà, on va prier. Seigneur, nous te remercions, car tu t'approches de nous, tu viens vers nous. Et nous, même si nous avons envie de nous laisser distraire par toutes sortes de choses, jusqu'à un certain point c'est permis, mais pas trop, nous avons à cœur de revenir de tout notre cœur à toi. Pour le bien, pour ta gloire d'abord, pour notre propre bien aussi, mais aussi pour le bien de ceux qui sont seuls, qui sont avec le moral dans les talons. Seigneur, merci de nous appeler à cette glorieuse vie qui est le contraire même de l'ennui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen.